RMC.
Inbound the card right to Jordan. Time winding down. Michael for three. Yeah! Yeah! Yeah!
Basket time.
Final seconds. Bryant for the win. Bang!
Pierre Dorian.
Basket Time sur RMC, c'est votre rendez-vous basket que vous retrouvez en podcast tous les mardis en début d'après-midi. Vous téléchargez sur rmc.fr et vous passez trois quarts d'heure, une heure à vous régaler, à entendre la Dream Team parler de basket. Une Dream Team représentée aujourd'hui par Fred Weiss, Arnaud Valadon et Stephen Brun.
Salut Pierrot.
Salut Pierrot.
Bonjour.
C'est un podcast spécial Steve Brown, baby. C'est les Dallas Mavericks au programme, Steve.
Tout à fait, direction le Texas.
T'es content?
Oh, je suis content que mon équipe aille bien sur la fin de saison.
Combien de fois t'es allé à Dallas dans ta vie?
Combien de fois je suis à Dallas? J'y suis allé deux fois.
Et alors? Ça vaut le coup?
Il fait chaud.
Il fait très chaud.
Ah ouais. Très chaud.
À part ça?
À part ça, écoute, c'est une ville sympathique. Hein.
T'as fait des rodéos?
Non, j'ai pas. Je suis monté sur. Ouais, mais j'ai pas
fait des rodéos
dans un bar, là.
Avec des Texans, mais pas avec des chevaux et des taureaux, quoi. Bon, bah, ça commence bien. C'est un spécial Dallas Mavericks. Voici le programme. Avec une vraie défense, les Mavs peuvent-ils être champions? On sait qu'en attaque, c'est pas trop un souci quand t'as Kyrie et Luka dans la même équipe. Doncic est-il le MVP de la saison? Ah, Doncic qui enchaîne les matchs incroyables et les shoots uniques. Qu'est-ce qu'il y a, Fred?
Je t'écoute.
Non, mais t'as pas
l'air... Ce début de podcast, il m'a fait halluciner.
Je t'ai pas demandé si t'avais fait du rodéo. Bon, bah, écoute...
Ne me pose pas la question.
Il y a pas de sale gueule là-dedans.
Non, moi... Si, j'ai eu l'impression un petit peu, mais bon...
C'est juste que quand on parle des maps, c'est Steve le héros, tu vois. Et puis, alors là, on va parler du Texas dans la partie historique. Qui est la plus grande star NBA de l'histoire du Texas?
C'est pas un mec qui est originaire du Texas. C'est
non,
un mec
non, non, dans les franchises du Texas, ouais. Il y en a trois quand même, hein, trois grandes franchises. Hein. Dallas, San Antonio, Houston. Et il y a eu des sacrés joueurs.
Il y a des beaux joueurs.
Le quiz sera consacré à l'actu des Mavs, donc pas de dinguerie.
Voilà, pas de dinguerie.
Pas de dinguerie.
Pas de boucle.
Les petites questions très faciles
sur la série
Dallas, il y en a.
Ton univers impitoyable.
Exactement. Il y en a.
Bravo.
Il y en a, on va voir si vous êtes bien calé sur la série Dallas. Basket Time, c'est tous les mardis en podcast sur rmc.fr.
Pour une fois que je vérifie pas sur les séries, tu vas faire la série vraiment.
Et donc on est sur les Dallas Mavericks et leur grosse série de victoires.
Washington drives and scores. He too came over during quarter three. It is good from PJ Washington. Irving knocks it down. Irving lobs it up and Jones puts it down. Jones gives it up. Gafford slams it down. Lively oops the alley from Exum. Kleba touch pass. Lively finish.
He's got it going today.
Doncic, what a look. Exum on the finish. Gafford dashing ahead. Denver trying to get back. And Gafford a strong take to finish. Irving for the win.
Alors, les Dallas Mavericks sont sur une série de 7 victoires consécutives. Ils sont remontés à la 5e place de la Conférence Ouest. Et depuis l'arrivée de Daniel Gafford et PG Washington, ils se sont mis à défendre. Alors, avec une défense, les Mavs peuvent-ils être champions? Évidemment, dans une conférence où c'est la guerre, hein, va falloir déjà sortir de ce tableau parce que c'est vraiment la folie. Tiens, pour l'instant, si on s'en tenait au classement actuel, ils affronteraient les Clippers au premier tour. Et ensuite, peut-être le Thunder au deuxième. Donc, c'est compliqué. Malgré tout, c'est quand même une franchise qui compte dans ses rangs Luka Doncic et Kyrie Irving. Donc, avec une défense, Fred, ça change tout?
Ça change tout, évidemment. Mais je trouve que c'est impressionnant, effectivement, l'apport de Washington et de Gafford. Il faut se rendre compte quand même que, par exemple, sur le dernier match, Gafford te fait 5 contres. Sur les 5 derniers matchs, il met 13 contres. C'est-à-dire qu'en gros, tu peux mettre un petit peu de pression sur les joueurs. Derrière, t'as un mec qui sait pas faire un lay-up, mais qui fait que des dunks, mais qui par contre te protège le cercle. Et évidemment, ça change parce que t'avais Lively, mais maintenant t'as Gafford, t'as PJ Washington qui fait quelques contres aussi. T'as un bloc défensif intérieur intéressant. Et comme tu disais, offensivement, y a pas grand-chose à faire. Donc ça te permet de mettre énormément de pression sur le ballon, enfin plus de pression sur le ballon, de compenser un petit peu les lacunes défensives ou en tous les cas le manque d'envie parfois de Luka. Parce que derrière, t'as des mecs qui assurent.
On a déjà parlé des Mavs cette saison et tout le monde était d'accord pour dire que leur défense c'était rédhibitoire. En playoff, ça passerait pas.
Bien sûr.
Alors, est-ce que ça peut passer en playoff maintenant?
Franchement, là, à l'instant T, parce que vu leur série, ils sont quand même à 7 victoires de suite, 7 ou 8 victoires de suite, là.
7, là.
À l'instant T, c'est l'équipe, une des équipes les plus dangereuses. Moi, du côté de l'Ouest, la seule équipe qui me fait peur pour eux, c'est tomber contre Denver.
C'est-à-dire que... Ah bon ?
Parce que le reste, alors je te dis pas que ce sera facile, mais je me dis que les match-ups sont tout à fait corrects. À l'instant T, si je devais parier sur
Dallas Clippers,
je parie sur Dallas.
D'accord. Steve.
Ouais.
Oui, Pierrot.
Et qu'est-ce que tu en penses, toi ?
Écoute, j'en pense que la greffe a mis du temps à prendre parce que ça fait un moment que PJ Washington et Gafford sont là et qu'au début, ça ne matchait pas. Ils continuent à prendre beaucoup de points. Jason Kidd a décidé de changer ses plans et de sortir Derek Lively du 5 de départ et de mettre Gafford. Et je pense que la différence, elle est là, clairement.
Oui.
Fred l'a dit, tu avais besoin d'un mec qui, protecteur de cercle, Lively peut l'être, mais qui a quand même une expérience supplémentaire dans la ligue. Et puis, quand tu démarres avec Derrick Jones Jr., PJ Washington et Dennis Gafford, tu as trois mec spécialiste défensif dans le 5. Donc ça permet à Lucas et Kyrie, même si Kyrie n'est pas un mauvais défenseur, Lucas, lui, est un mauvais défenseur, donc c'est d'avoir deux purs attaquants et trois mecs qui colmatent les brèches. Donc déjà, c'est un peu plus cohérent. Après, la série, quand même, du jour au lendemain, c'est devenu une équipe, c'est le troisième, le quatrième défensive rating sur les 12 derniers matchs de la Ligue. Donc la culbute est quand même hallucinante par une équipe qui prenait quasiment 120 points par match depuis le début de saison. Il y a quatre matchs où ils encaissent moins de 100 points. C'était pas arrivé, c'est arrivé deux fois sur les 60 premiers matchs de la saison. Alors Gafford, oui, mais il doit y avoir d'autres explications. C'est pas Gafford.
Non, mais l'avantage, c'est quand tu sais comment ça se passe, quand t'as des grands derrière qui te protègent le cercle, ça te permet, je te dis, d'avancer un petit peu, de mettre un peu plus de pression. Et il faut pas sous-estimer Dante Exum aussi, hein, qui est un vrai bon défenseur.
Dante Exum et Lively qui sortent du banc, ce qui fait que t'as deux garçons aussi qui défendent en sortie de banc. T'as Hardaway qui vient mettre des paniers à 3 points. Et puis peut-être qu'à un moment donné, il y a une prise de conscience en disant bon, écoutez, l'équipe, on a fait des ajustements pour, on continue à prendre 118 points. On va en play-off, on va peut-être même pas aller en play-off, on va passer par les play-in. Il faut mettre les doigts dans la prise et se bouger le fion pour défendre. Il y a peut-être une prise de conscience. Après, je rejoins Fred.
De là être champion ou pas ?
Champion, c'est difficile, c'est difficile. Maintenant, je rejoins Fred dans cette conférence Ouest, mis à part Denver. Pour moi, toutes les équipes sont prenables. Ouais. Parce que OKC fait une saison exceptionnelle, mais il faudra aller voir les petits gamins en play-off. Hein. C'est pas la même musique. C'est des équipes qui manquent d'expérience. Les Clippers sont le joujou préféré de Luka Doncic. En termes de prestations individuelles, il détruit les Clippers à chaque fois qu'il les joue.
Et ils sont moins dans leur momentum. Ils ont eu un momentum hyper impressionnant. Et effectivement, s'ils arrivaient sur ce momentum, ça aurait été compliqué. Là, ils sont un peu dans le dur.
Et surtout, avant la fin de saison, peut-être que Dallas peut continuer sa série et gratter la quatrième place et avoir l'avantage du terrain aux Clippers. Champion, j'y crois pas. Maintenant, c'est l'heure pour les Mavs de faire autre chose que de l'attaque à tout va et c'est de faire quelque chose en play-off aussi parce que le duo Doncic-Kyrie fonctionne à merveille. Il serait temps de capitaliser là-dessus.
Alors, Arnaud, est-ce que tu les vois champions, toi ?
Non, je suis assez dubitatif. C'est vrai que là, défensivement, c'est assez impressionnant, mais on est quand même sur une période de fin de saison. Il y a quelques quand même victoires probantes hein, quand tu gagnes contre Denver avec ce shoot incroyable à une main de Kyrie. Il y a quelques victoires références, mais tu joues aussi des équipes quand tu joues Utah et que Utah passe pas les 100 points.
Ouais. Bah tu bats Houston qui est sur une série de ouf, tu bats Sacramento pour faire la bascule.
Il y a les deux, ils sont quand même sur une bonne période, mais t'arrives quand même à un moment où la NBA, t'as des joueurs blessés qu'on met au frigo, etc. Moi j'ai deux réserves. J'en avais trois, il y avait l'aspect défensif, on voit que une forme,
ça c'est réglé, ça
se règle, mais je trouve le 5 pour aller en play-off un peu faiblard quand même, hormis Kyrie et Doncic qui sont énormes. J'aime bien Derrick Jones, PJ Washington et Daniel Gafford, mais ça ne m'envoie pas du rêve et je me dis qu'il te manque quand même peut-être...
C'est complémentaire.
Il manque quand même peut-être un lieutenant offensif.
Tu fais abstraction du niveau de Luka Doncic.
Les Mavs ont été champions.
Mon autre point, c'est que Luka, est-ce qu'il ne va pas être cramé une nouvelle fois ? Il était cramé contre les Warriors en fin de série l'année dernière, a joué des 37-38 minutes à chaque match. Moi, je me pose des questions à chaque fois sur Luka parce qu'il fait tellement de choses. C'est pas 38 minutes comme un KD, parce que KD joue aussi à peu près 37 minutes. Mais j'ai l'impression que la débauche d'énergie de Luka est plus importante parce que il organise le jeu, il monte la barre.
Ouais, mais c'est surtout qu'il a Kyrie en relais. Oui. Vraiment, je trouve que c'est hyper intéressant leur relation justement parce que
moi,
tu vois plus Kyrie fait son truc et sur le quatrième carton, c'est souvent Kyrie qui prend la main justement parce qu'il est plus frais, parce qu'il a plus de ballon.
Je trouve cet effectif encore court sur pattes et est-ce que Luka va pas être cramé aussi à un moment donné ?
Vrai joueur de basket.
Après, les Mavs ont été champions avec un seul All-Star dans leur équipe, Dirk Nowitzki.
Autour, il y avait du monde, tu vois.
Il y a pas une équipe de champions.
Jason Terry, Jason Kidd.
Le titre de Dallas en 2011 est peut-être une des plus grandes.
des titres les plus surprenants de l'histoire. Il y a des joueurs qui avaient des CV énormes autour de Dirk, qui étaient un petit peu sur la fin, mais des soldats exceptionnels, Jason Terry, Jason Kidd, Sean Marion, Deshaun Stevenson, Tyson Chandler. Oui, maintenant, on rappelle que cette équipe des Mavs a fait finale de conf déjà avec un duo, je ne veux pas dire équivalent, mais c'était Jalen Brunson à la place de Kyrie Irving. Et Jalen s'était révélé d'ailleurs en play-off quand Luka avait loupé des matchs. Je crois qu'il ne faut pas sous-estimer Luka Doncic, qui est peut-être le seul joueur aujourd'hui à te gagner un match, voire même une série, à lui tout seul. Et personne ne veut jouer Luka Doncic en play-off.
Donc,
personne.
Finale Denver-Dallas.
Ah, tu t'emballes, Pierrot.
Je ne sais pas déjà pour les Clippers si ça va vraiment passer.
Pour moi, c'est possible. Pour moi, c'est possible parce que je me répète.
Fred voit que Denver vraiment au-dessus de Dallas.
Oui, pour moi, le reste, c'est jouable.
C'est ton cas, Steve ?
Je ne sais pas, Minnesota a la capacité de réduire un peu l'impact offensif.
Ils sont très, très chiants, j'avoue.
Ils ont la capacité de réduire l'impact offensif des Mavs avec Rudy Gobert, avec Towns qui va revenir, Anthony Edwards. Mais Dallas, c'est bien. Ils sont pas loin, ils vont faire une saison quasiment à 50 matchs gagnés. Hein. Ouais. Il reste 8 ou 9 matchs gagnés, ils en ont 45.
Et surtout sur les 8 qui restent,
oui.
Ils en ont 7 qui sont des équipes bien, qui sont moins bien classées qu'eux.
Wizards, Hornets, Sacramento, Portland.
Ouais, il reste que OKC sur le dernier match, mais ça sera déjà joué.
Et le plus important, on le sait, c'est d'arriver en forme et avec un roster plein sans blessure pour commencer la post-season. Et c'est le cas des Mavs, en fait.
Ils ont juste Josh Green, ce qui est minimum comme absence.
Voilà. Arnaud, t'as pas entendu sur le match-up OKC Dallas, tu vois qui ?
OKC Dallas, mais je sais pas, cette équipe d'OKC, elle a un truc, beaucoup d'observateurs, d'anciens joueurs disent c'est des gros chiens, tu sens qu'ils ont énormément de hargne, énormément d'envie de tout casser.
Est-ce que Lou Dort va être capable de se mettre en mission sur Kyrie ou sur Luka Doncic?
Super match-up à voir ça, Lou Dort contre Luka, et moi j'ai quand même tendance à donner
Luka,
un petit avantage OKC.
Fou, quand tu vois ce qu'il fait sur ses défenseurs, il y en a pas un qui y arrive quand même, hein?
Non, inarrêtable.
Et c'est fou. Donc est-ce qu'un très bon défenseur peut changer le plan de jeu de Dallas?
Le plan, quand tu joues les Mavs, c'est que Luka va mettre 40, mais il ne faut pas que Luka fasse 16 passes, parce que là, ça devient problématique. Luka te met 40, il dit OK, mais il ne faut pas que Hardaway, Exum, Gafford fassent 5 alley-oop, il ne faut pas que les autres scorent. Parce que s'il fait 40, 12 et 16, il va falloir mettre 150 points pour les battre.
Alors on va passer naturellement du coup à notre deuxième débat sur Luka Doncic dans ce spécial Dallas Mavericks. As Luka puts up a contested shot that goes in. Here we go. Luka scored a moment ago, takes it inside, and it falls home again. And then Luka takes it inside and shows off his strength. That's what Luka does, the master of deceleration. And he drains another three. Landale and the switch. And Luka attacks him on the drive. Inside. Two more. Back down by Luka. Brooks trying to dig in. This is 1v1. And Luka with the foul! Luka has done this to many teams this year. What?
I'm beginning to believe, man.
No sneaking up on people with Luka Doncic tonight, though. 26.
Whoa.
Maybe three more. Yeah, baby! Ha ha!
Yeah, baby.
Luka Doncic est-il le MVP de la saison? Avant de débattre, un petit coup d'œil en détail sur la saison de Luka Doncic, Arnaud.
Et déjà, il progresse dans la course au MVP. Jokic reste le favori, mais Luka est numéro 2. Passé devant Shai Gilgeous-Alexander, la saison de Luka, 33 points, 9 rebonds, quasiment 10 passes. Son meilleur pourcentage en carrière à 3 points, avec plus de 10 tirs tentés. Il est à 38%, il joue 37 minutes. Des performances hors normes quand
38%,
ce match.
38%, c'est peut-être un petit bémol. Ça quand même, non, on va y revenir, continue.
On a vu le volume.
C'est à 3 points.
Oui, 3 points. Okay. 3 points.
J'ai pas capté.
Vas-y, 3 continue. Points. Un match mémorable à 73 points le 26 janvier dernier contre Atlanta. En mois de mars, il a fait 7 triple-doubles de suite. Alors, il reste pas le king des triple-doubles cette saison puisque c'est Sabonis, mais Luka n'a jamais semblé aussi fort que cette saison.
Alors, est-il le MVP de la saison, Frédéric Weiss?
C'est super difficile à dire. Alors moi, il est dans mon top 3, oui, évidemment, parce que dans mon top 3...
Il y a Jokic, Doncic et Shai.
Et Shai, exactement. Donc c'est vraiment très difficile de juger sur ces trois. Ça dépendra à quelle position ils vont terminer. Mais concrètement, ils cochent toutes les cases. Meilleur score à NBA. Alors, on compte pas jouer à Embiid, meilleur score à NBA. Il fait jouer son équipe joue bien. Il commence à
Jojo
dominer.
Jojo qui va revenir, attention.
Oui, mais qui n'aura pas fait assez de matchs.
Non, enfin, qui peut pas être MVP, mais je dis juste pour l'intérêt de la saison.
Non, mais bien sûr. Mais concrètement, il coche toutes les cases. Je pense que ça tient dans un mouchoir. Je mettrai une pièce sur Jokic, mais de peu, parce que Doncic fait une saison magnifique, oui, formidable.
Qu'est-ce que Jokic aurait de plus? selon
le
toi.
Bilan.
Le bilan.
Bah déjà oui, le bilan, exactement. C'est important, hein. C'est très important le bilan.
Tu le déposes,
le bilan toi, des fois.
On se remémorant chaque instant, je suppose.
Bien sûr.
Moi, j'ai presque 50 ans, hein. Donc tu peux vraiment en parler.
Je vais bientôt le faire.
Donc franchement, je trouve qu'ils s'en rapprochent. Je trouve que ça ne serait pas usurpé cette année. Mais encore une fois, ça dépendra vraiment du bilan à la fin de la saison.
Ok, donc Fred n'a pas pris parti. Donc Arnaud, à toi.
C'est compliqué parce que quand tu vois ce qu'il fait, oui, il le mérite. Mais d'un autre côté, tu as aussi Jokic qui fait des stats incroyables. Son adresse aussi. Et qui est l'équipe numéro 1 en conférence Ouest. Donc... le cœur, envie de dire quand même Doncic, il mérite d'en avoir un. Tu vois.
Moi, je dirais que peut-être ce qui est plus impressionnant chez Jokic, c'est qu'il fait des choses qui vont largement au-delà de son rôle de pivot. Alors que Doncic, c'est un formidable arrière-meneur scoreur. Mais il est dans la filière qu'on lui connaît depuis le début de sa carrière. C'est peut-être ça la petite différence.
De faire des matchs à 17 rebonds, ça fait partie du métier de meneur de jeu, ça, Pierrot.
Bah après, quand t'as des shoots, pu en finir dans une ligue où ça shoot beaucoup trop, c'est peut-être normal que des mecs comme ça soient surestimés en rebond, non ?
Ah, je sais pas. Je trouve qu'il y a du dépassement de fonction quand même parfois chez Luka Doncic.
Parfois. J'aurais dit quand même très souvent. Il fait tout.
Pour moi, il doit être MVP. Il doit être MVP. Alors, il était éclipsé parce que les Mavs avaient pas un très bon bilan et avaient du mal à faire des séries. La série, on y est. S'ils passent les 50 victoires, je pense que son cas redevient très 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 sérieux. S'ils sont 4e ou 5e et surtout ils finissent la saison en boulet de canon, c'est là où tu peux impacter le jury. Et puis il y a 73 points, 4e performance de l'histoire. C'est énorme. Il est rentré 73 points avec des pourcentages exceptionnels. 19 triple-double cette saison, la plus longue série de triple-double consécutif avec au moins 30 points sur un match. C'est Luka Doncic. C'est une saison. Le mec, elle est historique la saison. Le mec qui s'en est le plus rapproché, c'est Westbrook en 2017. Il avait été MVP et avec un moins bon bilan que vont avoir.
Oui,
que
dans une équipe qui performait pas.
Non, dans une équipe qui performait pas. Si tu cumules points, rebond, passe, il y a que Kareem Abdul-Jabbar qui a fait mieux en 1972. La saison, elle est monumentale en fait. Jokic a été MVP aussi. Les Nuggets avaient gagné de moins de 50 points. Il a fait un match à 18 passes décisives. Enfin, je sais pas ce qu'il vous faut le plus. Tous les tirs, tous les highlights, le scoop shot là qu'il met contre Houston, c'est n'importe quoi.
Ouais, alors, mais ça c'est n'importe quoi, tu peux
c'est pas n'importe quoi, Lucas, parce qu'il y a quand même
il y a
de la maîtrise pour faire ce genre de tir. C'est, à un moment donné, c'est plus de la chance quand c'est récurrent.
Mais moi, je te rejoins à 90%, mais après, je pense à Jokic qui, je trouve, qui implique encore plus ses coéquipiers, qui joue à son rythme, mais qui implique
est-ce
plus
qu'il est
encore.
Pas plus collectif.
Oui, mais parce que justement, dans le jeu de Denver est plus basé sur ce collectif où on partage plus de ballons, etc. De 1 et de 2, Shea, je trouve qu'il marque des points aussi, parce que non seulement il marque beaucoup de points, justement, c'est
Il défend.
Et il défend, il fait des interceptions et il est clutch. Et par exemple, le dernier match au Madison Square Garden contre New York, c'est lui qui a le dernier ballon. Il n'est pas bon du match, enfin, il n'est pas bon, il met 19 points, hein. Mais il n'est pas super bon du match et il met le dernier truc.
Mais tu ne peux pas me dire que Lucas n'est pas clutch non plus.
Non, mais c'est pas ce que je suis en train de dire. Je dis simplement que ces trois cas-là peuvent se défendre sans aucun problème et que les trois méritent réellement.
Si on revient sur le scoop shot qui a fait beaucoup parler là, contre Houston, donc c'est une feinte de tir extérieur et puis il rentre.
Il passe en dessous, oui.
Il passe en dessous, il lui met un petit ballon.
En gros, il fait un lay-up de quasiment la ligne à 3 points. Voilà. En gros.
Qu'est-ce qu'il a exceptionnel ce shoot.
Je viens de te le dire, c'est comme un lieu.
Tu fais pas un tir à la cuillère à 3 points normalement.
Est-ce que c'est pas un peu un shoot Ave Maria, c'est-à-dire allez, je le tente.
Mais il a déjà fait une fois à 3 points, il avait jeté un espèce de caillou qui était rentré avec la planche dans un match
hallucinant. Au début du match, à l'échauffement, le mec envoie sur le panneau de tableau d'affichage et ça. Donc le mec en fait, il a sorti, il a cette qualité.
Aujourd'hui, les mecs. Bah, pas dire s'entraîne, mais pratique des tirs qui sortent de nulle part. Quand tu vois Steph Curry, tous ces tirs
du tunnel et tout comme ça. J'ai vu un de ses coéquipiers, mais je sais plus lequel, dire que le scoop shot là, qu'il a mis contre Houston, il le travaille.
C'est pas Kyrie qui dit ça ?
À l'entraînement, c'est Kyrie qui a dit ça ?
Je crois.
Peut-être, ouais.
Il a dit qu'il l'a déjà mis plusieurs fois à l'entraînement et là, c'est passé en match. Pas que de la.
Non, Pierrot, tu peux pas te dire que c'est 100% de la chance.
Non, c'est que de la magie, je veux dire. C'est pas juste.
C'est de la magie. C'est pas parce que tu l'as travaillé avant, les magiciens
travaillent
avant.
Non, quand tu travailles, je veux dire que chaque c'est qui sait qu'il peut le faire.
Chaque, s'il avait travaillé le scoop shot toute sa vie, bon, il en a pas mis un, c'est dit tout de suite. Hein.
T'es sûr
faut... Ouais, certain. Il faut une certaine habilité de départ. Mais écoute, ouais, ça va jouer Lucas, Shai, Jokic. Est-ce qu'ils vont vouloir innover et donner un nouveau garçon qui l'a pas ? Je sais pas.
Est-ce que finalement, Jokic, il a envie tant que ça d'un nouveau titre de MVP.
Oh, tu le prends quand même. Hein.
Non, mais
à un moment, c'est pas une question d'envie, c'est une question de mérite.
Non, mais
il le mérite, il l'a.
Oui, mais là, t'as trois mecs qui le méritent presque, tu vois.
Et ces trois mecs, ils font pas campagne là-dessus. Oui, alors, Lucas, tu parles, ça l'intéresse pas. Shai, on l'a jamais. Et Jokic, bon, lui, ils sont
lui, ils sont depuis le début.
Est-ce que ça se jouera pas finalement sur le joueur le plus important pour son équipe ? Lequel des trois
mais c'est ça, c'est la question,
a le
c'est
plus qui... d'influence sur les résultats de son équipe, selon vous ?
Bah, les trois.
C'est dur à dire, hein, mais...
Les trois, je sais pas si Shai rétrograde pas un petit peu avec l'avènement de Jalen Williams. Parce que Jalen Williams est très très bon dernièrement. Ouais, je trouve qu'il rétrograde un petit peu, entre guillemets. Hein. Mais sinon, les deux autres...
Après, là, est-ce que Denver, si c'est Jamal Murray qui prend toutes les responsabilités, est-ce que c'est pas une bonne équipe aussi ? Forcément, c'est moins bonne équipe, mais c'est une équipe correcte.
Oui, c'est clair.
Par contre, Dallas, si t'enlèves Lucas et tu mets que Kyrie...
Je pense
que c'est ric-rac. Hein,
ouais, c'est quand même...
Donc écoute, les trois ont une influence.
Et puis il y a évidemment, là on parle de la NBA, mais il ne faut pas oublier que pour le tournoi olympique, tu as dans la même poule Giannis et Luka, il y en aura un des deux qui ne sera pas au jeu, hein, qui vont être éliminés. Donc ne pas voir Luka quand même à Lille puis Paris.
Ouais, on préfère la Slovénie que la Grèce, non ?
Bah, soit la Grèce, soit
la Slovénie.
Pas sûr, pas sûr.
Mais toi, tu détestes Giannis aussi.
C'est pas que je déteste, mais moi je me régale moins avec un
Giannis. C'est moins artiste.
Ouais, c'est un bulldozer. Giannis défonce tout le monde physiquement.
Il va falloir battre les Grecs en Grèce quand même.
Ouais, ça va être costaud, t'as raison.
Puis dans quel état de forme ? Parce que s'il arrive encore cramé.
Vous préférez voir qui ? Vous, la Grèce ou la Slovénie ?
La Slovénie.
Tu vois, Fred, c'est vraiment un.
Non, mais c'était juste pour être l'avocat de dire, oui, c'est un sale type.
Et le TQ en Espagne, tu préfères voir les Espagnols ?
Non, moi je préfère. Pour la France, il vaudrait mieux qu'ils soient pas là, mais ils mériteraient, non ?
Des Espagnols ?
Il y a qui d'autre dans leur poule ? Il y a pas...
Angola, Liban, Bahamas, ouais, Finlande, Pologne.
La Finlande,
Laurie Markkanen.
Super.
Comment t'as pas respecté la Finlande ? Le rire, non, le rire de
dis-moi,
méchant dans les films des années 80.
Pour le grand public, quand on va te dire il y a
Laurie Markkanen.
Il y a Finlande, États-Unis. Ouais, super. Non, tu préfères voir Espagne, États-Unis, non ?
Je préfère voir Espagne, États-Unis.
Mais on aime bien Laurie Markkanen, il n'y a pas de souci.
Hein. Et le TQ de la Lettonie, tu veux voir le Porzingis ?
La Lettonie, oui, je pense, non, quand même.
Oui.
Ouais. Bien sûr. Puis en plus, on a une revanche à prendre contre eux.
Oui.
Donc on a envie de les jouer, de les battre et puis on avance. Et ensuite on prend le monde.
Et en voiture Simone.
Voilà. En quart de finale l'Espagne, en demi-finale le Canada et en finale les États-Unis.
Plaque.
Là on prend 40 points.
Mais et ça la sera beau déjà. On perd en finale.
Ouais, je pense.
Et les filles.
Les filles c'est chaud.
Les filles c'est compliqué.
Les filles c'est chaud quand même.
Gabby Williams à 3 points, je sais pas.
Ok.
Toi tu dis quoi pour les filles ?
Je pense que les filles vont faire podium.
Ah ouais, podium.
Ouais.
Intéressant ce que nous dit Stephen. T'as pas l'air convaincu, Fred. On referme la parenthèse puisqu'on est sur un épisode spécial Dallas Mavericks et nous allons parler. Alors là, attention, on a innové pour la partie historique.
Tim Duncan, unbelievable! And I think Dirk will agree. Stepping into a three, it's 8 in a row to start the game for Dirk. And a steal by Strickland, a lazy pass. Elijah Watt blocks it away. The crossover. Get out of here! Tim Duncan strolling down the lane. Oh, Elijah Watt laughs at home.
Hakeem Olajuwon coming in on the left side. No block out by Mason. And it's just all Olajuwon getting up in the air with room to operate.
Oh, man, what a finish by Tim Duncan.
Olajuwon with a spectacular move.
Here it is.
Alors, on va parler rivalité. On est sur un spécial Dallas Mavericks et vous savez qu'il y a une grosse rivalité, bien sûr, avec les San Antonio Spurs, mais qu'il y a une troisième équipe au Texas qui a une longue et belle histoire, c'est Houston. Et donc, vous allez me dire qui est la plus grande star de l'histoire de la NBA au Texas. Je vous ai sorti quelques noms, mais peut y en avoir d'autres, bien sûr, entre Dirk à Dallas, Tim Duncan à San Antonio et Hakeem Olajuwon à Houston. Mais on n'oubliera pas quand même des Luka Doncic, David Robinson ou James Harden. Qui commence ? Fred, tu commences.
J'ai choisi forcément le meilleur des trois. Hakeem the Dream Olajuwon.
Ah bah on s'en serait douté, tiens.
Ben forcément, un pivot incroyable, meilleur contreur de l'histoire de la NBA. Un joueur qui est deux fois champion NBA, deux fois MVP des finales. forcément. Et juste pour se rappeler un petit peu ces finales, la première finale, il tombe contre Patrick Ewing, quand même, qui était un des pivots dominants de l'époque, et il le mâchouille très tranquillement, vraiment les deux mains dans les poches, il le mâchouille. Et puis finalement, en 95...
J'aime bien cette expression. Il le mâchouille comme un
vieux chewing-gum.
Comme une barre de deux ans, là.
Et exactement. Et donc, en 95, il va jouer contre le Shaq. Sauf qu'avant de jouer contre le Shaq, il va jouer contre David Robinson, qui va lui aussi mâchouiller, évidemment. Il va le mettre dans sa poche alors qu'il est MVP en titre. Il va vraiment faire exactement ce qu'il veut. Et contre le Shaq...
Respecte l'amiral, quand même.
Il l'a juste mis dans sa poche, c'est tout. Et c'est un amiral de poche, c'est tout. Et donc, juste en finale, il joue contre le Shaq, qui est quand même un joueur très dominant à cette époque-là déjà. Et The Dream va être encore une fois MVP des finales, à 33 points, 11,5 rebonds, 5,5 passes, des contres à gogo, en veux-tu, en voilà, en explosant, c'est Orlando Magic 4-0. Il faut se rappeler quand même que ce joueur a inventé des moves, que tous les joueurs des années 90, les pivots, ont essayé de reproduire ces moves de haut panier. La preuve, le grand Kobe Bryant avait demandé à Hakeem Olajuwon de lui apprendre des moves de haut panier pour se perfectionner, c'est tout simplement. Donc un joueur incroyable qui a fait rêver tout le monde, qui a été le pivot le plus dominant en termes de footwork de l'histoire du basket
français, jeu de pied,
en termes de travail de pied, de mouvement, de feinte, de tout. En fait, ce joueur était incroyable, et je me répète, en plus de ça, en plus d'être très bon offensivement, il avait commencé le basket très tard, il a été exceptionnel en défense, meilleur contreur de l'histoire.
Et est-ce qu'un jour tu vas nous parler d'un petit d'un arrière, un joueur de ta vie?
Ah ben oui, le jour où tu demanderas des joueurs moyens. Moi, tu m'as demandé un très bon joueur, donc forcément je parle d'un grand.
Ok, est-ce que Hakeem Olajuwon est le meilleur joueur de l'histoire du Texas, Arnaud?
Non, alors c'est bien, le meilleur contreur de l'histoire. Moi, je te prends le meilleur contreur en playoff, parce que lui, il gagne plein de titres, c'est Tim Duncan,
il a joué pendant les époques Michael Jordan, Tim Duncan.
Non, mais il y avait quand même du monde à l'époque.
Oui, il n'y avait pas Michael Jordan.
Il y avait Kobe Bryant.
Oui, bah d'accord. Non, mais oui. Il y
avait LeBron James. Non, je sais pas.
Bah super.
Donc, Tim Duncan, certes, c'est pas le plus fâchi, mais il est incroyable. Ses 5 bagues, évidemment, de champion. 1072 victoires en carrière. 2 fois MVP back-to-back 2002-2003. 3 fois MVP des finales. Joueur des paniers quelques mythiques. Il en a mis un buzzer sur la tête du Shaq. Un tir à 3 points contre Phoenix en prolongation avec le Grand Phoenix. Il incarnait cette franchise des Spurs
plan-plan, où on s'ennuie, mais c'est vraiment pas funky. Exactement.
Mais c'est ça, et je vais vous faire découvrir.
Moi, je parle d'un mec flashy, flamboyant, mais lui, il parle d'un mec.
Ouais, mais les fondamentaux dans le basket.
Les fondamentaux, franchement, tu veux parler à
Hakeem
Olajuwon?
Qui fait partie peut-être des 10 meilleurs joueurs de l'histoire.
Hakeem, je suis d'accord.
Tim.
Meilleur allié fort de l'histoire.
Oui, moi, je parle de meilleur pivot.
Meilleur allié fort de l'histoire.
Ah, d'accord.
Oui. Et je vais vous parler un peu de sa personnalité, parce qu'on sait Tim Duncan.
Son goût pour les vêtements, tu vas nous en parler.
Son goût pour les vêtements, les clapets. Le téléphone a clapé aussi, le téléphone portable a clapé. Un mec qui n'est pas du tout passé au 21e siècle. Mais je vais vous parler de son côté trash talker. Parce que oui, il aimait beaucoup embrouiller les gens, mais d'une manière très particulière, discrète, mais aussi clinique. C'est Kevin Garnett qui parle.
Tim Duncan, shout out to Timmy. Tim Duncan, people would not see him verbally saying stuff because he wouldn't talk in sentences. Timmy would hit you in phrases, got you. Almost. This the worst right here. Nice try. Like subtle shit, no gangster shit, no real hardcore shit.
Kevin Garnett, qui était le premier trash talker, dit, mais en fait ce mec est fou, il ne fait pas de phrases, il dit juste des mots. Je t'ai eu, presque. Bien essayé. Pas des trucs de gangster, vraiment des trucs, mais cliniques.
Ah oui, pour t'énerver.
Bien essayé.
Regarde, la preuve, c'est que ça énerve Fred. Et ça...
Non, c'est Arnaud qui m'énerve.
Et ça incarne les Spurs, des fois, il rigolait juste, il se moquait des adversaires. Et c'est vrai qu'on le voyait pas, parce qu'on est devant sa télé, c'est pas des choses que l'on voyait. Il y a une séquence, un moment, où il se moque de Dwight Howard avec une banane comme ça. C'est TC Spurs. Et aussi, qui ne rentrait pas dans le jeu de leur adversaire. Beaucoup expliquaient, je crois que c'est aussi Kobe, les Spurs, incarnés par Tim Duncan, mais ça rejaillissait aussi sur Manu Ginobili et Tony Parker, on pouvait leur dire n'importe quoi, ils réagissaient pas. Ils étaient de marbre, intouchables.
Non mais
donc en fait, on est en train de... Juste, excuse-moi Pierre, je vais prendre la parole 2 secondes. On est en train de m'expliquer que tu es un énorme joueur parce que tu fermes ta bouche. C'est ça?
Non, mais
ça
fait énorme joueur. Parce que quand il faut gagner le match, on te donne la balle et tu marques.
C'est exactement ce qu'on faisait avec Hakeem Olajuwon.
Et avec Tim Duncan.
Excuse-moi de mettre aussi en personnalité la personnalité.
Mais quel rapport avec la personnalité?
Mais parce que c'est un tout.
C'est un
star, c'est un tout.
C'est le trophée du mec sympa ou quoi?
Si on commence à se moquer de la voix d'Arnaud, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup d'arguments, Stephen.
Ah, c'est à mon tour?
Oui.
Alors écoute.
Hakeem Olajuwon ou Tim Duncan?
Alors déjà, pour moi, le roi du Texas, c'est un garçon qui a fait toute sa carrière dans le Texas. Donc Hakeem est éliminé parce qu'il est parti à Toronto la dernière saison.
Il a fait une dernière saison.
Il est éliminé. Tu marques le Texas, c'est toute ta vie, Pierrot. Toute ta vie. Hakeem, bravo, grand respect. T'es parti au Canada, t'es éliminé. Ensuite.
Ah, t'as lâché tes éperons et ton chapeau de cow-boy. Voilà. Pour une grosse
doudoune. Mais t'avais un petit peu chaud, ensuite, tu dis, voilà, fin de carrière, il avait besoin de froid.
Tim Duncan et Hakeem Olajuwon étaient attendus pour faire ces carrières-là. Deux numéro un de draft, les mecs étaient attendus pour dominer la NBA. Moi, je vais vous parler d'un blondinet chevelu. Pas vraiment attendu à cette carrière-là. 9e de draft, qui arrive de 2e division à Wurzburg, qui fait une première saison rookie très moyenne. Et là, on se dit, ça y est, Don Nelson, ça va être le flop. Dirk Nowitzki, bien entendu, ça va être un flop. Mais non, 2e saison, 2e au classement de la meilleure progression de la NBA. Puis après, la carrière qu'on lui connaît. MVP de la saison régulière, champion NBA, la surprise générale, où ça sweep les Lakers. Nowitzki est aujourd'hui le 6e meilleur scoreur de tous les temps, de toute la ligue. 21 saisons sous le même maillot, plus que Tim Duncan aux Spurs notamment. Et puis, si on dit Steph Curry a bouleversé le jeu en NBA, Dirk Nowitzki a modifié un poste de jeu. Le poste d'ailier fort, le poste 4, ces mecs de 2m13 qui tirent à 3 points, c'était le pionnier. Et aujourd'hui, il n'a que des enfants sur le parquet. Tous ces mecs de 2m13 qui tirent à 3 points, c'est la descendance de Nowitzki.
C'est les enfants aussi.
C'est la descendance de Nowitzki. Et puis, un move signature, le one leg fadeaway, qu'aujourd'hui tout le monde reproduit, notamment Kevin Durant. Le signature move de Dirk Nowitzki qui a marqué l'histoire de la NBA. Voilà pourquoi Dirk est le roi du Texas, Pierrot.
Je vais vous poser une dernière question. Avant cela, juste un mot quand même sur les 3 autres joueurs que j'ai cités, dont Doncic, David Robinson et James Harden. Est-ce qu'ils sont dans le jeu là?
Doncic, je pense qu'il le sera d'ici peu, mais pour l'instant, il n'a pas arrêté sa carrière. Il y a encore plein de choses. C'est pas suffisant.
Est-ce qu'il faut qu'il soit champion ou pas forcément?
C'est obligatoire quand même. Parce que là, tu passes derrière des mecs qui ont été champions.
Ouais, c'est ça. David Robinson, même dans sa franchise, c'est pas le numéro 1. C'est Tim Duncan, donc c'est difficile.
Il ne sera peut-être même pas numéro 2.
Oui, en plus, il sera peut-être même pas numéro 2, c'est vrai.
Et Harden?
Et Harden.
Non, trop mal.
Le sanglier des Harden.
Non, mais tu peux pas me donner l'argument que t'as pas assez joué en Rockets et parler d'Harden.
Alors, on les balaye. Une question.
Yao Ming?
Non.
Tracy McGrady?
Victor, le sera?
Non, une question simplement. Donc, nous sommes donc dans le prime de Dirk Nowitzki, Tim Duncan et Hakeem Olajuwon. On les regroupe dans une saison NBA. Qui est champion?
Hakeem Olajuwon.
Comment? Tim Duncan.
Hakeem Olajuwon.
Nowitzki.
Non mais c'est les arguments de...
C'est impossible, les trois sont des joueurs tellement fantastiques, ils ont transcendé leurs équipes.
Alors, j'aime bien les arguments de Stephen.
J'y mettrai une pièce sur Stephen parce qu'effectivement...
Sur la révolution du jeu, il a raison.
Alors la révolution, oui, mais il y a surtout, c'est lui qui avait l'équipe la plus faible quand il est en finale. Oui. Donc c'est lui qui arrive à transcender une équipe.
Si tu prends la meilleure équipe de Dallas, donc celle qui est championne, c'est quoi? C'est 2009, 2011.
Après il y a celle de 2007.
La meilleure équipe des Spurs, là ça va être solide. Et la meilleure équipe de Houston avec Hakeem. Donc, je pense que c'est les Spurs qui sont champions.
Oui, mais c'est pas lui. C'est pas un seul joueur. C'est parce qu'il est mieux entouré.
Mais entouré.
Entouré de quoi?
Quand t'as Tipeee et quand t'as Kawhi Leonard, quand t'as Manu Ginobili.
Quand t'as David Robinson.
Eh ouais.
Eh ouais, mais quand t'as Tim Duncan.
Hakeem Olajuwon, c'était Vernon Maxwell, Sam Cassell, Bébert Horry, qui était un jeune Bébert Horry.
Oui, Clyde Drexler qui est plus le Clyde Drexler de Portland. Oui, mais plus, c'est plus le Drexler de Portland.
C'est plus The Clash, c'était The Crash, c'était The Clash Drexler.
Donc vous voulez me dire qu'on n'a pas mis fin, on n'a pas mis un terme à ce débat?
Après le Texas. T'as rien entendu ou quoi? C'est Hakeem Olajuwon.
Le Texas a mis fin au débat.
Le Texas est un état très grand, il peut y avoir 3 rois.
Oui, c'est vrai. On les départagera sur un rodéo et c'est Stephen qui sera l'arbitre.
Mais toi, c'est lui qui connaît plus.
Toi, tu veux pas trancher, toi?
Non, moi j'ai l'impression, je sais pas, parce que Hakeem Olajuwon, pour moi, c'est une légende, mais alors j'ai tellement pas vu jouer que c'est compliqué et j'ai l'impression que Tim Duncan est considéré comme l'un des plus grands de l'histoire, oui. Que donc ça règle le débat, mais oui, bon, vous avez eu des bons arguments quand même.
C'est bien battu.
Vous êtes bien battu, ouais. Vous êtes bien battu. Le quiz, on va voir si vous êtes aussi bon. Ah, c'est intéressant. Dans les joueurs en activité.
Le mec sauce sa question. Ah, c'est intéressant.
Qu'est-ce qu'elle est bien écrite, cette question, franchement.
Ça prend pour Julien Lepers.
Ah oui.
Ouais.
Ah, je sais qui c'est.
Je sais qui c'est. Les cerveaux abîmés, c'est pour ça, c'est tout.
T'es pas les paysans. T'es un mec de début de Chaumont, toi.
Pas vrai, c'est pas des poissons rouges, c'est des calamars.
Je l'avais lu en plus.
Mais c'est des calamars.
Steve, ils sont là, ils attendent que tu donnes la bonne réponse.
Je te tiens, tu me tiens par la barbichette.
Fred, tu me regardais comme ça, j'avais l'impression d'être devant un bocal avec un poisson rouge.
Tu peux me laisser parler.
Alors, c'est un quiz sur l'actualité des Dallas Mavericks. On va faire un tout petit peu de culture générale. On a vraiment un tout petit peu. Franchement, je ne vais pas vous embêter longtemps. Ce fameux scoop shot de Luka Doncic, je ne sais pas si vous avez vu, Jason Kidd a comparé Doncic à Picasso. Il a dit, c'est comme Picasso.
Vous donnez un pinceau et il vous sort
un truc. Il
se
passe quelque chose, oui. Exactement. Picasso, membre éminent de quel mouvement de la peinture ?
Le cubisme.
Cubisme.
Alors, cubisme, c'est parti en premier chez Frédéric Weiss. Bravo. J'acceptais aussi comme réponse surréalisme et post-impressionnisme, mais c'est évidemment...
Cubisme. Moi, j'étais sur clubisme.
Club échangisme. Et alors, donc, plus facile, nous allons réviser les paroles du générique de Dallas. Oh.
Ton univers impitoyable.
Il y a des phrases mythiques.
Ouais, mais bon.
Ok, glorifie la loi du plus fort, par exemple.
Ouais, c'est ça.
Mais il est très long, ce générique. Donc, je vais vous citer une phrase.
Et
vous allez me dire si oui ou non dans la chanson.
Chacun son tour.
Stephen, on commence par toi. Dallas, le revolver est ton idole.
Ouais.
Dallas. Je le fais pas parce que je chante mal. Hein.
Le revolver. Dallas, le revolver est ton idole. Non, ça colle pas, c'est faux.
Alors, réponse en musique.
Le revolver est ton idole. Oh.
Magnifique, ça. Magnifique.
Arnaud, Dallas, patrie des ranchs et du whisky.
Non, c'est patrie du dollar et du pétrole.
Patrie du dollar, du pétrole.
Mais comment il peut se rappeler de ça ?
Non, mais t'as vu l'assurance avec laquelle il est
venu ? Ouais, incroyable.
Parce que ça aurait pu faire aussi ranch et whisky,
oui,
non ?
Bien sûr. Oui.
Peut-être dans un autre couplet.
Bourbon plutôt. Whisky,
bravo, ça n'existe pas le ranch et le whisky. Fred, Dallas, tu te raccroches à ton passé ?
Non.
Tu te raccroches à ton passé.
C'est vraiment naze, non ?
C'est, ça, c'est vraiment naze.
Ouais. Mais vraiment, bravo Pierre. Bravo.
Franchement, c'est ta meilleure question depuis que je fais ce jeu.
Pour te dire qu'ils n'avaient rien à raconter sur Dallas, tu te raccroches à ton passé. Zéro. Bon, alors ça fait quand même un point pour Arnaud qui a égalisé avec Fred. On va revenir à la NBA. Doncic est sur le point de signer un contrat historique. Je vous donne des questions sur les contrats historiques, les plus gros contrats de l'histoire de la NBA. Ok ? C'est pour tout le monde. Hein.
Okay.
En 2003, quel joueur signe un contrat faramineux de 123 millions de dollars avec Indiana ?
Stephen Jackson ?
Rick Smith ?
Non.
Reggie Jermaine O'Neal ?
Reggie Jermaine O'Neal, 123 millions de dollars, ce qui en faisait l'un des joueurs les mieux payés de la NBA à ce moment-là. Bravo Fred.
Il a perdu beaucoup dans la bagarre.
Oui.
Quel horrible joueur de basketball a signé un contrat de 105 millions en 1996 avec les Washington Bullets, faisant de lui,
Pervis Ellison,
tenez-vous bien, le quatrième joueur le mieux payé derrière Garnett, le Shaq et Alonzo Mourning lors de la saison 2001.
John Wall ?
Non, 2001, ouais.
Avec
Big,
les Washington
Country,
Gilbert Arenas.
Non, mais bien moins bon joueur de basket.
Anthony Jamison.
Qui a joué ensuite.
Bon,
non, mais il faut descendre encore. Il a joué à Dallas. Plus tard. Ouais.
Ouais, c'est chaud là.
Et
parce que s'il est vraiment très mauvais, c'est dur de le trouver du coup.
Il est connu pour un highlight du plus abominable lancer franc de l'histoire.
Chuck Hayes.
Non. Ça aurait pu être Chuck Hayes, c'est vrai.
Du plus abominable.
Mais lui aussi, il en a fait un abominable.
Bill Cartwright.
Non, vous l'avez pas, je vais vous le donner.
Initial.
J.H.
John Otrod Williams.
Et c'est pas Dwight Howard.
J.H. Je sais pas.
C'est
Juwan Howard.
Ah ouais.
Aïe, aïe, aïe. Est-ce que je lui donne Juwan Howard, je lui donne ou pas? J'étais en train de donner la réponse.
Ah, c'est dur, Juwan Howard, c'était pas si dégueu que ça.
Sheldon, 3
Miami.
Points.
Miami.
Ouais, Miami, ouais. Non, mais il perd en finale
bon
contre...
Très bon coach.
Contre les Mavs.
Très bon coach, il s'est battu, je crois,
oui.
Avec Michigan.
Alors, on continue sur les gros contrats de l'histoire de la NBA. Quel joueur a signé la prolongation de contrat la plus élevée de l'histoire ?
Jalen Brown ?
Non. La prolongation. Hein.
Giannis ?
Non.
Steph Curry ?
Jokic ?
c'est en 2023, mais c'est pas Jokic, c'est pas Lillard.
Et Anthony Davis.
Anthony Davis, 186 millions sur 3 ans. Une prolongation, ouais. Hein, on parle de la prolongation. Donc c'est Fred qui prend de l'avance, 4 points pour Fred.
À l'oseille, hein.
Et enfin.
Question d'oseille, Fred, il est là. Bon.
Quel joueur a signé un contrat? Écoutez bien le montant du contrat de 300 000.
Jalen Brown.
$3. 300 000, $3 sur 3 ans en 1965 avec les Boston Celtics.
Bill Russell.
Bill Russell. Bravo, Steve.
300 000,
et pourquoi, les $3 en plus des 300 000?
Pour les tips.
Pas pour les tips.
C'est pour être le mieux payé.
C'est pour être mieux payé
que son coach,
que Will Chamberlain, qui touchait 100 000 $ par an.
J'ai entendu
cette histoire. Et donc, il a exigé avoir 100 001 $ par an sur 3 ans.
Encore de quéquette, quoi.
J'accorde un point de plus.
Tu l'aurais perdu face à Will Chamberlain, par contre.
C'est possible. Quoique, t'as jamais regardé dans le caleçon de Bill Russell. Hein. Pour le coup, qu'il devait en avoir aussi, parce que quand même, le garçon est spécial. 5 points pour Fred, 1 point pour Steve, 1 point pour Arnaud. Daniel Gafford jouait dans quelle franchise avant les Wizards?
Ah.
Toronto?
Non.
Brooklyn?
Non.
Détroit?
Non.
New Orleans?
Non.
Atlanta?
Non.
Nulle part, il était drafté par Washington?
Non. T'as continué, hein, si vous l'avez pas.
Los Angeles?
Vous allez la trouver.
Portland?
Non.
Phoenix?
Sacramento?
Non.
Denver?
Non.
Les Spurs?
Non.
Memphis?
Non. Charlotte?
Non.
Les Pelicans?
Non.
Indiana?
New York?
Indiana?
Les Nets?
Toujours pas.
Washington?
Ah non, Washington, non.
Charlotte?
Toronto?
Non, toujours pas.
Les
Memphis,
Chicago.
Non. Chicago, c'est bon. Faudra réécouter. Peut-être que c'est la dernière que vous avez citée, non? Il en restait peut-être quelques-unes. 2 points pour Arnaud. Vrai ou faux sur PG Washington? On démarre avec, c'est Steve qui est en retard. Donc on démarre avec Steve. J'ai joué avec Nicolas Batum.
PG Washington, oui, c'est vrai.
C'est vrai, lors de la saison 2019-2020. Arnaud, j'ai joué avec Tyler Hero. C'est vrai ou c'est faux?
C'est faux.
C'est vrai, à l'université du Kentucky.
Oh. Ah, il t'a baisé là.
Et Fred, j'étais dans la NBA All Rookie Team 2020. On parle de PG Washington, c'est faux, il était dans la seconde All Rookie Team de 2020. Fred, t'es bon aujourd'hui, 6 points pour Fred, 2 pour Steve, 2 pour Arnaud. Les Mavs sont sur 7 victoires d'affilée. À l'heure où on enregistre ce podcast, donc mardi à la mi-journée, quelle franchise a la plus grosse série de défaites en cours?
Défaites en cours?
Washington?
Détroit?
Non.
Charlotte?
Non.
Spurs?
Non.
Ah, je sais, c'est Brooklyn?
Non.
Portland?
Non.
Ah,
c'est qui alors?
Toronto.
C'est Toronto.
Ah oui, oui. Toronto, ils sont à 12 ou 13.
13. Donc, on en est à 3 points pour Steve, 2 points pour Arnaud et 6 points pour Fred. On va finir avec une question multipoint aux enchères sur la draft 2018. Luka Doncic, 3e. Shai, 11e. Il y a 9 joueurs à trouver. Draftés dans les 10 premiers à part Doncic. Les 10 premiers de la draft 2018. Or Doncic, il y en a 9 et c'est aux enchères. Steve, tu démarres. Il faut que tu en trouves au moins 3, même 4, on va dire. Donc, je te conseille de démarrer à 4.
Bah, je vais dire 6.
6. Arnaud, t'en chéris ou... Arnaud, il lâche l'affaire.
Ouais, je lâche l'affaire aussi.
Tu lâches l'affaire aussi.
Ah, 5, pardon. Je veux dire 5.
Ah non, trop tard.
Ah non, t'as dit 6. Allez, vas-y, on y va.
DeAndre Ayton.
C'est bon, le numéro 1.
Marvin Bagley.
C'est bon, le numéro 2.
Jaren Jackson Jr.
Excellent, il les donne dans l'ordre.
Trae Young.
Excellent, on est déjà à 4.
Wendell Carter Jr.
C'est excellent. T'en as sauté un, mais c'est pas grave.
Mo Bamba,
bravo Steve.
Ouais, bravo.
T'en es à 6. Et tu as les autres ou pas?
Non.
Colin Sexton, Kevin Knox et Mikal Bridges. Steve au buzzer, tu remportes le quiz.
Bravo.
Sois pas dégoûté, Fred. Tu t'es bien battu.
Oui.
T'aurais pu tenter 7, mais tu les aurais
non,
pas.
Non, je les avais
pas. C'était le scoop shot de Stephen.
À la semaine prochaine.
Je l'ai dit, Trae Young.
RMC Basket Time.